cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre émission 100% locale Cultivons notre jardin. Donc cette émission présentée par Nat et Jackie, toujours pareil, où nous vous parlons de jardinage au naturel, mais pas que. Salut Jackie, au grand maître composteur cette fois, comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien, je continue de composter, je continue à préparer les émissions comme ça, et donc tout va bien. Et toi, de ton côté ?
Toi, tu n'hibernes pas complètement. Alors, ben écoute, moi, de mon côté, ça va plutôt bien, merci. Je suis bien dans la saison. Je prépare le printemps tranquillement. En ce moment, je fais sécher des graines de courge, principalement. Voilà, chaque fois que je mange une courge, je fais sécher les graines. C'est intéressant. Comme ça, je les sèmerai quand ça sera le moment. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre ? J'attends que les coins de mon jardin finissent de mûrir. Et puis ensuite, je les transformerai en une petite eau de coin que je te ferai goûter, Jackie, si tu veux, quand elle sera prête. Voilà.
Bien volontiers.
Qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment, Jackie ? À part écrire des émissions Cultivons notre jardin.
Alors, on pourra sans doute se régaler dans les prochaines émissions, puisque si toi, tu prépares de l'autre coin, de mon côté, je prépare aussi quelque chose que nous goûterons ici, c'est du vin de coin.
Ah bien !
Alors, le vin de coin, c'est un apéritif maison qui est bien apprécié en général. Alors, je vais en profiter pour donner la recette à ceux que ça intéresse.
Ça, c'est sûr.
Pour un kilo de coin bien mûr, coupé en quatre et pépiné, j'ajoute 2 litres de bon vin blanc, un quart de litre d'eau de vie, et de 150 à 250 grammes de sucre, selon les goûts, hein, si on aime bien sucré ou pas trop sucré. Et je vais laisser macérer ça pendant un mois dans un pot en grès. Et il ne me restera plus alors qu'à filtrer et se régaler entre amis. Alors bien sûr, il faut le dire, avec modération.
Oui, toujours pareil, hein, on est bien d'accord. Ah ben c'est sympa. Et tu sais que à cause de toi maintenant, Jackie, j'ai un coin dans ma voiture.
Voilà, voilà. Parce que plusieurs personnes, j'espère sûrement, ont fait la même chose. Hein. Au salon de la récup, j'en avais parlé comme ça, parce qu'effectivement, il nous reste toujours des coins cette saison. Et pour parfumer l'habitacle de la voiture, c'est vraiment idéal. C'est très agréable, c'est pas coûteux. Et on peut même avoir le plaisir d'en offrir aux gens qu'on aime. Voilà, pour mettre dans la voiture.
Voilà, alors c'est rigolo. Maintenant, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte dans ma voiture, il me dit « Oh, t'as oublié de manger ta pomme
!» Alors, j'ai aussi fait d'autres choses encore. J'ai fini de ramasser mes légumes racines dans mon jardin de la Védrinelle, parce que je l'ai fait dans un jardin à la montagne, là-haut, à côté du Moulinet. Mm-hmm. Les carottes et les betteraves rouges sont bien belles cette année. Ça a bien marché, là, surtout sur la fin de saison.
Chouette.
Je vais les mettre dans du sable à la cave pour partie. Car je stérilise une autre partie, des carottes. Hein, je les mets quasi entières comme ça, dans des bocaux. Et parce que j'ai un petit-fils qui n'aime pas trop faire la cuisine, mais qui aime bien les carottes du grand-père. Et une partie des betteraves sont prévues aussi pour agrémenter les salades gourmandes. Alors, ce que je fais, c'est que je les cuis, je les découpe en morceaux. Je les jette dans un bocal. Et j'ajoute par-dessus une vinaigrette bouillante, une vinaigrette composée d'huile, de vinaigre blanc, d'ail et de persil, jusqu'à recouvrir mes morceaux. Je referme le bocal illico et puis ça y est, c'est fait. Et ça se conserve vraiment très bien sans autre forme de stérilisation.
Tout l'hiver, ben c'est sympa. Vous pouvez faire des petits pickles aussi, des petits morceaux de vinaigre au vinaigre blanc, voilà, qui vous permettent de grignoter des légumes à l'apéritif ou en entrée tout l'hiver. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Hein. Bon, sinon, aujourd'hui, on avait dit qu'on parlait du compost. Tu te rappelles, Jackie ? Et du coup, la dernière fois, dans l'émission numéro 6 de Cultivons notre jardin, tu nous as bien expliqué les bases du compost. Voilà, ce qu'on pouvait y mettre dedans ou pas. Et je crois qu'aujourd'hui, tu voulais plutôt nous parler du compost à chaud ou du compost à froid. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, s'il te plaît ?
Oui, eh ben écoute, on va retourner en fait au fond du jardin pour voir un petit peu ça ensemble. Là aussi, comme je l'avais précisé dans la précédente émission, on a des fiches qui sont complètes, hein, qu'on peut envoyer aux auditeurs qui le voudront.
Voilà, il suffit de nous le demander. Hein.
Voilà, on va plutôt parler du compost à froid là, parce que le compost à chaud est une technique plus élaborée déjà. Mm-hmm. Et on va essayer de rester sur le béaba du compost. Déjà, ce sera pas mal, parce que la preuve qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Ah bon, ben alors le compost à froid, Jackie, même si c'est le plus simple, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus, s'il te plaît?
Alors, je vais essayer d'expliquer ça simplement.
Oui.
Dans ce cas-là, le processus de compostage dégage de la chaleur, mais à l'échelle domestique. Hein, ce n'est pas une très grosse chaleur de l'ordre de 60-70 degrés. C'est une chaleur beaucoup, beaucoup moins importante. Les déchets frais sont souvent rajoutés au fur et à mesure. Les volumes en jeu sont relativement faibles et les pertes de chaleur sont importantes. De fait, tous les déchets se décomposent bien dans la nature, à même le sol, sans monter en température, et se transforment en humus, hein, ce fameux humus dont on a parlé plusieurs fois. Cette décomposition préserve les graines qui ne demandent qu'à germer dans ce terreau fertile. Donc l'absence de montée en température oblige à rester vigilant. Il faut, dans ce processus-là, éviter de mettre les plantes qui ont des graines indésirables dans le jardin. Il faut donc mettre les plantes avant la floraison ou même en fleurs, mais surtout pas en graines. C'est pourquoi la microfaune, le fait que ça entre pas aussi en température, ça explique que la microfaune du sol prend plus d'importance, participe activement à la dégradation de la matière organique. Par exemple, on a les vers de fumier, les millepattes, les cloportes, les colamboles, les acariens, les nématodes, les larves de cétoine dorée.
Ah, les voilà, les larves de cétoine dorée. Ce sont bien ces gros vers blancs, donc, qui ressemblent à des larves de hanneton.
Voilà, exactement. J'en ai déjà parlé sur cette antenne, dans une précédente émission.
On aime bien les vers.
Mais c'est toujours utile de faire des piqûres de rappel, comme par exemple pour réaffirmer qu'il ne faut pas brûler les déchets de jardin pendant l'hiver, là, hein, mais les composter.
Au printemps.
Voilà, au salon de la récup, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, par méconnaissance, donnaient ces vers aux poules ou les balançaient chez le voisin.
Ah ben c'est sympa ça, tiens un ver, pim pim.
Heureusement, c'est un heureux bénéficiaire qui se trouve de l'autre côté de la clôture, même s'il ne le sait pas obligatoirement. Ces larves de cétoine sont des décomposeurs. Elles participent activement à faire le compost. Au passage, ce sont elles également que l'on peut retrouver dans les jardinières de géranium, dans les pots.
Oui.
Dites-vous bien que ce sont des trésors.
C'est une espèce de super gros ver blanc. C'est super. Et sinon, là, tu nous parlais non pas de ver, mais de petites bestioles du compost, là, avant que je te coupe la parole.
Eh bien, tous ces petits animaux décomposeurs sont ce qu'on appelle des auxiliaires du jardinier.
Encore.
Au même titre que les bactéries ou les champignons.
Ou les coccinelles.
Voilà. Alors, petit détail important, il faut savoir que les vers de fumier ou de compost qui sont de couleur rouge tigrée, qui s'appellent des Eisenia fetida, meurent s'ils sont mis dans la terre. Ce ne sont pas des vers de terre. Donc, tout ce qu'on a dans le compost, il faut le laisser dans le compost.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux me dire maintenant comment je fais mon compost à froid ?
Alors, cette technique nécessite la réalisation d'abord d'un contenant, hein, en fait, qui laisse bien circuler l'air.
D'accord.
Mais ça demande moins de savoir-faire par la suite.
Hein. Genre la réutilisation de palettes, là, ça peut être pas mal.
Voilà, le silo le plus simple est constitué de planches formant un volume d'environ 1 m³. Effectivement, avec les anciennes palettes, ça marche bien. On n'est même pas obligé de les défaire, ces planches. Hein. On peut très bien avoir 4 palettes, les relier entre elles, et ça marche tout à fait bien.
D'accord.
On peut aussi le faire dans des silos en matière plastique.
Hein, ouais, bof, là, quand même. Hein.
Ben, c'est moins bien, mais il faut toujours penser à des gens qui ont des tout petits jardins, qui ne sont pas très bricoleurs, etc. C'est toujours mieux que de balancer ces détritus dans la poubelle. Hein. Oui. Moi, je trouve que ça a été fait pour la ville, ça a été fait aussi pour en fait que ça dégage un petit peu moins d'odeur vis-à-vis des voisins, donc qu'il y ait moins de freins à faire le compost. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tout le monde fasse les composts.
Que ce soit plus facile pour les gens. Oui, voilà. Mais on trouve aussi des composteurs en bois dans le commerce. Quand
oui,
même,
maintenant,
hein.
De plus en
voilà.
plus.
Hein. Déjà, ça, c'est bien.
Donc, on peut dire que les déchets organiques qui sont jetés au fur et à mesure de leur production et les êtres vivants dont on parlait tout à l'heure, hein, qui sont dans le silo, ils vont faire le reste, hein, les insectes, les myriapodes, les vers, et puis tout ça.
D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Il vaut mieux faire un compost en tas dans son jardin ou bien avec un composteur, un truc un peu contenu ?
Alors là, les critères de choix sont encore fonction des personnes, hein, fonction de la place disponible, ouais. de l'esthétique du jardin, du temps que l'on veut y consacrer et des quantités de déchets qu'on va avoir à composter. Le tas et le composteur peuvent même être complémentaires, car chacun possède des avantages et des inconvénients.
Oui.
Si je prends le tas, par exemple, comme avantage, il va représenter qu'il y a une action conjuguée beaucoup plus importante du climat et de la microfaune, hein, puisqu'en fait, il n'y a aucune protection.
Oui, il est bien à l'air.
Les risques de dérive sont limités, puisque, en fait, j'ai choisi de laisser ça en tas. La souplesse d'utilisation est très importante et je n'ai pas de contrainte de volume. Mon tas, il peut avoir la taille que je veux. Il y a aussi un autre avantage qui est la facilité d'intervention et d'observation, car les déchets sont visibles et accessibles tout le temps. Il y a un autre avantage, c'est que le tas, eh bien, c'est gratuit.
Oui.
Par contre, il présente des inconvénients.
Ah.
Le non-confinement des déchets.
Oui.
Hein, donc ça, on comprend très bien. Il y aura une évolution qui va être lente, hein, puisque y a plus d'air, etc. L'évolution va être un peu plus lente. Ça nécessite plus de place et l'esthétique est quand même bien discutable.
Oui, surtout hein, sur en plastique, hein, c'est ce que je disais. C'est pas bien beau. Hein.
Voilà. Non, mais pour ce qui est du composteur,
alors, oui.
Là, par contre, il y a peu d'avantages. Hein. Il y en a un, c'est quand même le confinement des déchets. Là,
oui,
on sait qu'il n'y a rien qui va s'échapper.
Voilà.
Une évolution qui est quand même assez rapide, puisqu'en fait, on a un circuit intérieur, en quelque sorte. Il y a moins de place, moins besoin de place. Hein. Mm-hmm. Et puis, les déchets sont inaccessibles aux animaux, ce qui peut aussi intéresser des gens. Mais par contre, il y a plus d'inconvénients. C'est que le processus interne est complètement isolé. Hein, on n'a pas beaucoup d'échanges entre ce que je vais avoir dans mon sol et dans mon compost. À l'inverse, il n'y a pas de risque de dérive. Mais attention, il faut quand même un suivi beaucoup plus régulier. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de la sécheresse, il ne faut pas qu'il y ait du pourrissement. Donc, il va falloir que je règle tout ça. Si je mets le couvercle, eh bien, il ne s'arrosera pas avec la pluie. Si je le retire, qu'il pleut beaucoup, il va se détremper. Voilà, on a aussi une contrainte de volume, hein, puisque là, on s'arrête à un moment, même si on peut avoir plusieurs composteurs.
Ouais.
Le brassage n'est pas facile.
Forcément.
L'observation est difficile, puisque les déchets ne sont pas visibles. Et puis, ça a quand même un coût.
Et oui, toujours.
Voilà.
Bon. Alors, si on résume, le tas ou le composteur ? Quel est ton choix, Jackie ?
Alors, moi, mon choix, il est assez simple. Hein. Le tas, il convient bien pour un grand jardin. Et si l'on a beaucoup de déchets à décomposer, si ce n'est pas trop près de la maison, etc., comme moi, mes jardins ne sont pas tenants à la maison, je procède vraiment comme ça. Mais je comprends qu'on puisse aussi préférer le composteur si on a un tout petit jardin, même s'il faut tout de même consacrer un peu de temps pour brasser les déchets. Voilà. Après, c'est vraiment... moi, j'ai essayé de vous donner les avantages et les inconvénients. Chacun pourra se faire son idée là-dessus.
Alors moi, il y a des gens qui m'ont parlé d'activateurs de compost. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu connais ça, Jackie, les activateurs de compost ?
Oui. Alors, je dirais qu'avant tout, ça sert à faire marcher le commerce.
Uh-huh.
Bon, je plaisante, hein, mais pas complètement. Donc, les activateurs de compost ne sont pas obligatoirement nécessaires si l'équilibre en carbone et en azote, en air et en eau, si tout ça est respecté.
D'accord.
Les activateurs naturels peuvent être utilisés pour développer l'activité des micro-organismes, comme par exemple le fumier de cheval, de mouton, de vache, même du compost en cours de maturation. Hein, des fois, pour redémarrer un nouveau tas, c'est tout à fait bien. Mm-hmm. On peut rajouter aussi de la terre, qui va en quelque sorte être un activateur. Les concoctions et incorporations de plantes, comme l'ortie, la consoude, la fougère, la valériane, la kilé mille fleurs, la camomille, le pissenlit, etc. Tout ça, ce sont des activateurs de compost.
D'accord.
On ne sait pas assez parce qu'en fait, on n'a pas développé cette information parce que le commerce préfère vendre
des activateurs de compost. Mais voilà, il en existe des naturels, donc ortie, consoude, fougère, etc. Ben, par exemple, Jackie, là, si je te dis ce qui ne va pas dans mon compost, est-ce que tu penses que tu peux essayer de m'aider à résoudre le problème ?
Ben, on peut essayer de jouer à ça, je t'écoute.
Alors, on y va. Alors, monsieur Brard, mon compost est trop humide. Il fait une espèce de pâte, il coule du jus quand je le serre dans ma main avec un gant. Comment faire ?
Alors là, on peut dire comme constat.
Je vais la reprendre, je pense que j'ai très mal articulé. Excusez-moi. Oui, alors, monsieur Jackie, mon compost est trop humide, visiblement. Lorsque je le serre dans ma main avec un gant, bien entendu, il coule trop de jus. Qu'est-ce que je peux faire ?
Déjà, il faut faire un constat. Il y a un déficit en matière carbonée, obligatoirement. Hein. Mm-hmm. Donc, tu dois même avoir des odeurs désagréables et des mouches en grand nombre.
Ah oui, terrible.
Il te faut rajouter du sec. Alors,
d'accord.
Du sec, ça peut être du broyat,
du BRF.
Des cartons, oui, du carton, des branches, du foin. Alors, le mieux, c'est quand même d'essayer de répartir tout ça en couches et de laisser un petit peu sécher avant de réarroser.
Oui, hein. D'accord. Eh bien, alors, problème inverse. Mon compost est trop sec. Qu'est-ce que je peux faire ? Il ne se décompose pas.
Et bien là, c'est qu'il y a un déficit en matière azotée. C'est l'inverse. Hein. Ou alors, on peut avoir aussi trop de soleil direct, trop de courant d'air ou trop de déchets ligneux. Il faut rajouter des déchets verts ou marrons, hein, comme on disait, c'est-à-dire les épluchures, etc. Il faut arroser aussi et mélanger.
Et bien mélanger.
En fait, voilà, recréer un autre équilibre entre les matières azotées, les matières carbonées, qui maintenant, j'espère, disent un petit peu plus quelque chose dans la tête des gens. Voilà.
Allez, une petite dernière. J'ai beaucoup, beaucoup de moucherons au-dessus de mon compost. Au secours, que puis-je faire ?
Alors, souvent, c'est consécutif à une présence de fruits et de féculents sucrés sur le dessus.
Mm-hmm.
Les drosophiles, qu'on appelle, hein, qui sont les petites mouches dans le même genre que les mouches de vinaigre, et se multiplient excessivement. Moi, la meilleure façon de faire, c'est ces déchets-là. Il faut les recouvrir par d'autres déchets, épluchures, etc.
Allez, c'est le sucre qui les attire.
Voilà, et puis qui va les faire reproduire énormément. Hein. C'est pour ça qu'il y en a des quantités phénoménales. On le voit au fruitier, quand on a dans la coupe, on a un fruit qui commence à s'oxyder un petit peu. Eh bien, elles vont très, très vite arriver et se reproduire parce que c'est un cycle de vie très, très court. C'est pour ça que les drosophiles sont beaucoup, beaucoup utilisés en médecine pour justement faire tout un tas d'analyses là-dessus.
D'accord. Bon, maintenant, je crois que j'ai tous les éléments pour réussir mon compost. Une fois qu'il est fait, ce compost, Jackie, quels sont tes conseils d'utilisation ?
Eh bien oui, c'est de donner autant de mal. Il faut pas gâcher ce qu'on aura obtenu. Hein. Là encore, c'est quand même un trésor, ça. Hein. Alors, il faut pas enfouir le compost en profondeur.
D'accord.
Pour moi, il faut toujours l'incorporer dans les 10 premiers centimètres du sol à l'aide d'une griffe.
Mm-hmm.
Hein, une griffe à 5 dents de préférence, ce qui facilite le travail. C'est un outil qui n'est pas assez développé chez nous, ça. Une griffe, hein, ce qu'on appelle une griffe, c'est ce qu'on appelle ici souvent un croc,
mm-hmm.
comme ça, croc à fumier. Croc à fumier, il a 4 dents. Et ben, si on peut trouver un croc à 5 dents, l'avantage, c'est que ça fait un peu le travail en même temps de la griffe et du râteau.
Ça remplace la main.
Voilà, la quantité moyenne, alors ça c'est quelque chose d'important aussi à se demander, mais combien est-ce qu'il faut que j'incorpore hein, en
oui.
fait. Donc la quantité moyenne à répandre, c'est de l'ordre à peu près de 10 litres au mètre carré.
D'accord.
Mais selon les végétaux qu'on va cultiver dans notre jardin, il y a des besoins qui sont différents. Alors, par exemple, les besoins sont faibles pour les haricots, les petits pois et les radis. On compte de 2 à 5 litres de compost par mètre carré. Un peu plus pour les laitues, carottes, oignons, fenouil, ail. Là, on va mettre entre 5 et 10 litres au mètre carré. Et pour les pommes de terre, les choux, les tomates, les poivrons qui aiment bien ces amendements, là, on va mettre de 10 à 15 litres de compost par mètre carré.
Ok, bon, ben, je crois que cette fois, Jackie, nous avons été vraiment complets sur le sujet. Je reprends. Ok, bah écoute, cette fois, Jackie, je crois qu'on a vraiment été complet sur le sujet du compost. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Nous touchons à la fin de l'émission et je vous redis une nouvelle fois que vous pouvez demander les fiches conseils de jardinage de Jackie. Voilà, réagir aussi à l'émission. Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous laisser vos messages par mail à redac@48fm.org ou bien sur la page Facebook de la radio. Voilà, nous allons vous laisser en musique avec une petite leçon de vie de nos amis toulousains, les Fabulous Troubadours, qui nous chantent demain, demain, demain je ferai de l'eau de coin, par exemple. Allez hop, on bouge. À bientôt, Jackie.
À bientôt et bonne fête à tous.
Bonne fête de fin d'année.
Demain sera un autre jour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, tu trouveras l'amour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain. Sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, fuit qui le poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain j'arrête, c'est promis. C'est sûr, on vous l'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain ceci, demain cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, demain, j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain. C'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre.